Mais nous sommes là pour parler de l'auteur de l'affiche de cette année, l'illustratrice de l'affiche de cette année, Hélène Larbeit. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et est-ce qu'on peut commencer par comment est-ce que vous sentez là, à ce tout début de festival, en tant que responsable de cette affiche qui chaque année fait un peu l'objet de convoitises et de peut-être de jalousie même, on ne sait pas.
Alors bah, tout d'abord, je suis assez impressionnée parce que bon, je suis arrivée dans la ville d'Épinal, j'ai vu les affiches 4x3, j'ai vu l'affiche déclinée sur les bus et sur plein d'endroits de la ville, donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. J'étais quand même très très touchée de voir tout ça, et puis mais ce qui m'a le plus touchée malgré tout, c'est de commencer à entendre la réaction très positive des gens par rapport à cette affiche. Et j'avoue que pour l'instant, j'entends des spinaliens, j'entends des festivaliers, j'entends des auteurs qui ont l'air d'accrocher, en tout cas avec cette affiche, qui, j'ai l'impression, la sont un petit peu appropriées, qui ont trouvé une façon, par un personnage ou un autre, de rentrer dedans. Et donc c'est ça qui finalement me touche le plus, je crois.
On va venir plus tard au contenu de l'affiche, voilà, en lui-même et à ce que ça représente, mais on va parler d'abord un petit peu de vous. Ma question en lisant votre biographie, c'était comment est-ce qu'on passe de l'histoire médiévale à l'étrange cabaret? quel est le chemin qui amène quel est votre parcours d'artiste? Comment est-ce qu'on arrive d'un diplôme un petit peu sérieux et peut-être un peu austère? L'histoire médiévale, on ne s'imagine pas comme hyper funky. comment est-ce qu'on arrive à l'étrange cabaret qui, lui, pour le coup, et délirant et très original?
Alors c'est vrai que je viens de l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime l'histoire médiévale, mais bon, il est arrivé un moment où l'histoire c'était bien, mais les histoires c'était bien mieux. Et c'est vrai que l'histoire apporte, je pense, en tout cas personnellement m'a apporté une culture. C'est vrai que bon, voilà, en connaissant l'histoire, on arrive à mieux connaître les histoires, les petites histoires dans l'histoire, et c'était ça qui me plaisait dans l'histoire.
Est-ce que c'est structurant ?
Oui, c'est structurant. Mmh. Voilà, ça donne un cadre, c'est structurant, ça donne... voilà, moi, j'ai aussi un goût prononcé pour la recherche, pour la symbolique, pour etc., qu'on retrouve d'ailleurs dans l'affiche, et je pense que j'ai gardé ça, et l'étrange cabaret, tout délirant qu'il soit, a quand même un cadre... et avec des références, et des références voilà, mythologiques notamment, nombreuses. Et je pense qu'on retrouve un petit peu ça. Par contre, c'est vrai que les cadres, ils sont là peut-être pour en sortir, finalement. À partir du cadre, savoir en sortir. Et voilà. Et je pense que pour l'affiche, ça a été le cas aussi un petit peu. Il y avait un cadre dans cette affiche, et la liberté, le cadre a offert la liberté, parce que bah, finalement... j'ai pu en sortir, et c'était ça qui était intéressant intellectuellement et d'un point de vue créatif aussi. Voilà.
Alors justement, pour pas opposer, mais voir s'il y a une complémentarité entre intellectuel et je dirais imaginaire un peu plus pur peut-être, enfin, quand on se l'imagine de mon point de vue justement, quel est le lien que vous faites entre auteur et illustratrice? Est-ce que c'est deux choses qui sont complémentaires? Est-ce que c'est des choses que vous ne pouvez pas dissocier? Ou est-ce que vous pourriez par exemple être juste illustratrice ou juste auteur? Puisque l'étrange cabaret, c'est pas juste des illustrations, c'est vraiment une histoire avec qui...
Alors je pense
comment ça
que,
se construit voilà. dans chez vous?
Je pense que en fait ça dépend du projet. Voilà, quand l'étrange cabaret, c'était vraiment un projet, c'était toute une histoire, c'était tout un univers, et l'illustration et le texte ne pouvaient pas être dissociés dans ma tête. Après, par exemple, donc j'ai aussi le plaisir de réaliser la couverture de l'anthologie des Imaginales cette année. Et donc là, c'est une couverture pour l'anthologie. Je n'ai pas écrit dedans, je n'ai écrit aucune nouvelle dedans. Donc là, c'était dissocié. Voilà, ça dépend du projet. Dès le départ, ce projet, c'était un projet de couverture, un projet... on en avait discuté donc avec les éditeurs qui éditent l'anthologie, les éditions Mnemos. Et on en avait discuté un petit peu de ce qu'ils attendaient, de ce qui pouvait être sympa pour la couverture. Et puis, c'était un projet différent, c'était une façon différente de travailler, qui est aussi très intéressante parce que ben, c'est vraiment une autre manière d'aborder la création. avoir uniquement le côté illustratif, en fait. Voilà, donc finalement, tout dépend du projet.
Alors justement, le projet précédent à celui de l'étrange cabaret, là aussi, on est plus proche de l'histoire peut-être que
oui.
On peut parler d'une progression vers, oui. entre l'histoire et l'imaginaire.
Oui, je pense que ça a été une étape et que le cabaret, j'ai été sur la scène, quoi. Je me suis libérée, je me suis lâchée dans son originalité, dans son côté un peu effectivement, déjanté, je dirais presque. Mais qui allait bien avec l'univers du cabaret.
Pour continuer sur ce cabaret, qu'est-ce que ça fait d'entrer dans une collection comme celle des Ouroubors? Parce que vous êtes publié chez Mnemos pour l'étrange cabaret, et ça fait partie de la collection Ouroubors, où on trouve des prestigieux auteurs et des livres qui sont complets sur des livres monde. Est-ce que c'était une pression, ou comment s'est fait le choix avec l'éditeur d'entrer dans cette collection-là plutôt qu'une autre? Est-ce que vous êtes considéré à ce moment-là comme une créatrice? Parce que, pour revenir sur ce que veut dire un Ouroubors, c'est un univers complet. Est-ce que vous vous êtes sentie comme créatrice d'un univers complet, comme world builder, comme disent les Anglais sur les auteurs qui construisent des mondes complets?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand j'ai proposé le projet Amnemos, c'est vrai que je l'ai tout de suite présenté dans cette collection-là, parce que je pensais qu'il correspondait bien. Qui pouvait bien correspondre en tout cas à cette collection qui met en scène effectivement des univers, des mondes. C'était vraiment un projet de livre-monde, et je m'étais dit peut-être que ça pourrait les intéresser, ça me semble pouvoir correspondre à peu près, et ça s'est très bien passé parce qu'ils ont accepté effectivement le projet rapidement, et c'était tout à fait ça. J'étais dans un monde, un univers bien à moi, différent, qui était entre le fantastique, entre le conte, la légende, la fantasy. C'était vraiment un univers à mi-chemin, et entre tout ça, qui finalement tissait des ponts entre beaucoup de choses.
Et est-ce que quand vous êtes dans cette création, puisqu'on a établi le fait que vous êtes à la fois auteur et à la fois illustrateur, de façon différente selon les projets, est-ce que les histoires que vous racontez vous viennent sous forme de mots ou vous viennent sous forme de dessins? Est-ce que l'un complète l'autre? Comment ça se passe dans le processus de création?
En fait, c'est assez variable, je dirais. Parfois, j'ai une image et une phrase qui est un point de départ, les deux viennent ensemble. Parfois, c'est des mots. Parfois, c'est l'histoire qui vient et les images viennent ensuite. C'est tellement imbriqué, c'est tellement lié chez moi. L'un va tellement avec l'autre. Je pense que je suis en tant que lectrice, en tant que... je suis autant marquée par le texte que par l'image. Et même enfant, j'étais déjà autant marquée par le texte que par l'image. L'ensemble, pour moi, il y avait tellement de liens entre les deux. C'était que du coup, je continue, je pense, dans mon travail à faire ce lien naturel, enfin automatiquement, systématiquement, et ça dépend des projets, ça dépend des... parfois l'image vient avant le texte, c'est indissociable l'un de l'autre.
Ah, alors, donc, question un peu piège, est-ce que vous pourriez écrire sans dessiner avec les mots, ou est-ce que vous pourriez... dessiner pour des choses sur lesquelles vous n'écrivez pas, vous venez de nous en parler, vous pouvez le faire. Mais est-ce que vous pourriez écrire un roman sans aucune illustration? Un roman complet ou qui ne soit pas ni un roman graphique, ni un Ouroubors comme l'étrange cabaret?
Oui, je pense que ça, je pourrais... j'arriverai à...
En étant illustré par quelqu'un d'autre?
En étant illustré par quelqu'un d'autre, après... je pense que c'est un état d'esprit. Si dès le départ, on se dit, voilà, ce projet, il est vraiment écrit... Il n'y a pas d'illustration possible parce que c'est un projet, vraiment un projet de roman, c'est un projet trop dense, c'est un projet trop important pour être mis à la fois par écrit et d'une manière illustrative. Je pense finalement, c'est l'état d'esprit compte beaucoup dès le départ quand on commence un projet. Parce que de toute façon, quel que soit le projet, on fait toujours des concessions, on fait toujours, voilà, on travaille avec des gens, on ne travaille pas seul dans le monde de l'édition. Donc, c'est toujours les projets, je pense que la meilleure manière pour qu'ils se passent bien, c'est de rester quand même assez, voilà, assez ouvert au dialogue et à la construction ensemble. Pour pouvoir faire des choses voilà, qui fonctionnent.
Alors, on va attaquer le sujet qui nous réunit. Alors, cette affiche, elle est née du mot « révolution » ou elle est née avant le choix du thème de cette année ?
Elle est née du mot « révolution ».
D'accord, bon, ça c'est fait.
Voilà, tout à fait.
Alors maintenant, moi, ma question, la première question que j'ai envie de vous poser quand je vois l'affiche, c'est qui sont les personnages de l'affiche ? Et en particulier, moi, je suis très intriguée par votre personnage central, qui est votre Dorothée.
Tout à fait.
Ou alors, est-ce que c'est Dorothée ou est-ce que c'est Alice ? Puisque on peut considérer que la grenouille est une sorte de lapin blanc. Enfin, en tout cas, elle a une montre.
Voilà.
quels sont les univers qui se mélangent dans votre tête et ensuite sur le dessin ?
Alors, le personnage central a été le point de départ, en fait, de l'illustration. Cette petite fille qui tient un livre sous le bras, c'est un personnage historique, donc de l'histoire américaine. C'est une petite fille qui s'appelle Ruby Bridges, qui est la première petite fille afro-américaine à rentrer dans une école pour blancs. Donc, c'était en 1960. Et donc, l'histoire de cette petite fille est intéressante. C'est à la Nouvelle-Orléans. Elle est partie à l'école escortée de marshals fédéraux parce que les policiers locaux ne voulaient pas l'accompagner à l'école. Donc, quand elle est rentrée dans cette école, il y a des parents qui se sont précipités dans l'école pour retirer leurs enfants blancs de l'école pour surtout pas qu'ils puissent être assis à côté de la petite Ruby. Tous les professeurs de l'école sont sortis, à l'exception d'une enseignante, voilà, Barbara Henry, qui venait de Boston, et qui pendant un an a fait la classe à Ruby,
toute seule,
voilà, tout à fait. Et cette petite fille, Ruby Bridges, donc elle avait 6 ans à l'époque, hein.
Et c'est un peu une Dorothy qui avait rencontré sa sorcière blanche, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Donc voilà, elle a été représentée dans un très célèbre tableau par l'illustrateur américain Norman Rockwell, qui était un peintre et illustrateur américain très réaliste, très célèbre. Ce qu'il faisait était vraiment très 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 beau. Et donc le titre du tableau est The Problem We All Live With, donc le problème avec lequel nous vivons tous, qui a été fait en 1964. Et donc il représente la petite Ruby, exactement, qui porte exactement les mêmes vêtements que dans l'affiche. Donc c'est un hommage aussi à Norman Rockwell, et qui part à l'école un livre sous le bras, sauf qu'elle va dans la direction opposée dans le tableau. On la voit escortée par les marshals. Voilà, on ne voit que leurs jambes parce qu'elle est petite, bien sûr, donc on ne voit que les jambes des marshals pour vous décrire un peu ce tableau. Et sur le mur, elle est devant un mur, donc elle marche sur le trottoir et encadrée par ces 4 marshals. Et sur le mur devant lequel elle marche, elle est superbe, elle est fière d'aller à l'école, elle a ses petits cahiers, son petit livre sous le bras. Et on voit sur le mur donc deux inscriptions importantes, je pense, pour resituer dans le contexte de l'époque. On voit les 3 cas du Ku Klux Klan et on voit l'insulte nigger, donc nègre en anglais, inscrite sur le mur, et des tomates écrasées qui dégoulinent le long du mur parce qu'effectivement, ce chemin de l'école pour la petite Ruby a été difficile.
Un chemin de croix,
un vrai chemin de croix, avec une foule énorme qui était là pour assister à l'événement, mais pas de manière, je dirais, pacifique.
Non bienveillante.
Non bienveillante, voilà, tout à fait. Et
c'est un très beau tableau, hein, ce tableau de oui. Norman Rockwell, si vous avez l'occasion de le regarder.
Tout à fait.
C'est un tableau magnifique.
Et pour la petite histoire, c'est un tableau qui d'habitude est conservé dans le Massachusetts, donc dans le musée de Norman Rockwell. Mais Barack Obama l'a fait déplacer à la Maison Blanche lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'est une petite anecdote autour du tableau qu'on ne connaît pas forcément.
Non, je ne savais pas.
Voilà. Et qui peut être... voilà. Et aussi, ça peut être intéressant parce que c'était pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Norman Rockwell a publié son tableau dans le magazine Look. Parce qu'il était auparavant, un an avant, il avait quitté un autre magazine pour lequel il travaillait, The Saturday Evening Post, et justement pour différences politiques, parce que le Saturday Evening Post ne lui laissait pas assez de liberté politique, notamment au niveau des représentations et de ses convictions politiques à lui. Voilà.
Bon, voilà, un choix très marqué.
Très marqué, très engagé, voilà.
Parce que c'est important pour vous que l'évolution aille dans ce sens ?
Exactement. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu l'évolution, c'est comme ça que j'ai vu la révolution. Cette petite fille est le personnage central de l'affiche, c'est Ruby Bridges. Dans le fond du tableau, on a un autre... Il n'y a pas beaucoup de personnages humains dans, dans cette affiche, il y en a assez peu. Il y a Ruby, qui est entièrement humaine. Et dans le fond, on a aussi donc, un hippocentaure amérindien qui est donc semi-humain dans l'affiche. Et là aussi, c'était une volonté. Voilà, les États-Unis sont le pays invité, représenter les Native Americans, comme ils aiment à s'appeler, tout à fait, et non pas les Indiens. Ou les...
Oui.
Hein, je pense que c'est important.
C'est important de dire que nous, en traduction et en langage français, on continue à parler des Indiens. Les natifs américains ne s'appellent pas des Indiens.
Native
Americans.
Voilà, et pas autre chose. Voilà.
C'est les premiers à avoir occupé.
Tout à fait.
C'est-à-dire que personne n'a découvert l'Amérique.
Voilà.
Surtout pas Christophe Colomb.
Non.
des gens habitaient déjà là avant.
Voilà, tout à fait. Et c'était très important pour moi qu'ils soient derrière et qu'ils tiennent la Liberty Bell, qui est la cloche de l'indépendance américaine. Et cette cloche de l'indépendance américaine, donc conservée à Philadelphie, c'est une cloche qui est fêlée. Elle est très reconnaissable hein, parce qu'elle est fêlée, elle est très symbolique, etc. Bon, il y a eu quand même, dans les sociétés abolitionnistes, dans les années 1830, cela se sont appropriées. Bon, il y a plein de symboles autour de cette cloche, mais ce que je trouve important sur cette cloche, et du coup, je dirais ironie ou espoir, hein, pour moi, il l'a brandi, ironie ou espoir, sur cette cloche, quand elle a été fondée, dessus, il y a une inscription qui est tirée du Lévitique, qui est tirée de la Bible, et qui dit donc « Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants ». Et moi, je dirais, oui, tout le pays, tous ses habitants, à condition qu'ils soient des WASP, quoi.
White American
Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire à condition que ce soit des hommes blancs, américains, protestants et... J'oserais rajouter hétérosexuel. Voilà.
Cette affiche, elle est hautement symbolique. L'année dernière, l'héroïne de Grégory Delaunay sur l'affiche précédente était sur un dragon. Sur le dos de quoi est Ruby cette année ?
Alors, cette année, Ruby est sur le dos d'un puma. Et donc, j'ai stylisé là aussi, donc avec des plumes sur son dos, sa queue qui devient une plume, avec donc la double référence. Ça peut être l'envol, ça peut être la liberté, mais ça peut être aussi encore une référence aux Amérindiens. Il y a beaucoup de références aux Amérindiens d'une manière générale cette affiche. C'est vrai que j'ai choisi beaucoup d'animaux pour représenter.
On a un aigle Tout en haut. Ouais.
Tout en haut, il y a un aigle, il y a des...
Qui est un Superman aigle ou c'est un super aigle ?
C'est un super aigle, oui. Voilà, on va dire ça, c'est un super aigle, effectivement, en tenue de... qui n'est pas tout à fait une tenue de Superman, qui est proche dans les couleurs, mais qui est surtout une tenue avec la couleur du drapeau des États-Unis.
Et ça m'a fait penser aux tenues des catcheurs mexicains.
Oui,
aussi un peu.
Il y a un peu de ça, tout à fait. Et bon, voilà, donc pour en conclure sur les Amérindiens, en tout cas, c'est vrai que dans les contes et les légendes amérindiens, contes et légendes voilà, des Native Americans, que je vous conseille de lire et d'approcher si vous ne les connaissez pas, car ils sont fort intéressants et très beaux. Il y a beaucoup donc, d'animaux doués de paroles et de raisons, et on est beaucoup dans ce qu'on appelle les contes étiologiques, c'est-à-dire qui nous, avec une approche de l'origine des choses, de l'origine du monde, fait de manière très intelligente et qui démontre une grande observation, une grande connaissance voilà, du monde, de l'humain aussi. Et donc c'était en référence à ces contes et légendes-là aussi. Ce choix des animaux n'était pas fortuit non plus.
Si vous êtes fan de comics américains, les super-héros et les choix de personnages de super-héros chez Stan Lee, ou que ce soit chez DC Comics moins, mais chez Marvel vraiment, il y a plein de personnages qui sont très clairement inspirés. Wolverine est un carcajou. C'est un animal qui est vraiment très lié aux légendes amérindiennes. Le Sasquatch. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui viennent
tout
de là. Et les super pouvoirs transposés, anthropomorphés entre animaux et humains, c'est vraiment hyper important.
Ouais.
Bien, donc on comprend un peu mieux cette affiche pour ceux qui ne l'avaient pas regardée d'assez près. Il y a quand même un Tin Man qui est une référence à Dorothy toujours.
Au début, comme
je savais pas que c'était Ruby le personnage, je me suis dit elle est très très fan de la version du Magicien d'Oz avec Diana Ross et Michael Jackson.
Ouais.
qui est une très chouette version, hein, mais y a peu de gens qui en sont hyper fans.
Voilà.
Et donc le Tin Man, c'était important. Pourquoi le Tin Man plutôt que le lion, par exemple ?
Parce que je trouvais que le lion, même si dans les nuages, donc on peut voir un lion dans les nuages de l'affiche, qui est en fait le lion là, qui est devant la maison romaine. Et il y avait déjà le lion dans les nuages. Je me dis, bon, bah, ce lion de la maison romaine, ça peut être à la fois le lion de la maison romaine et le lion du Magicien d'Oz. Et donc, voilà. Donc, le Tin Man, c'était... Voilà, je trouvais que c'était insolite aussi
de l'associer à l'Indien.
Ouais, de l'associer. Puis bon, on voit, il tient une petite ficelle. Avec sa petite ficelle, il tient une petite soucoupe volante dans laquelle est un tatou. Donc là aussi, animal emblématique hein, des États-Unis, du sud des États-Unis, notamment le Nouveau-Mexique. Le choix n'est pas fortuit non plus parce que, bon, au Nouveau-Mexique, on pense à l'affaire Roswell, etc. Donc la petite soucoupe volante, l'affaire Roswell et l'animal qui est dans la soucoupe volante, c'est le tatou du Nouveau-Mexique, voilà. Et donc oui, le Tin Man, voilà, c'est un personnage que j'ai toujours bien aimé aussi dans Le Magicien d'Oz. Et donc voilà. Et puis, c'était bien.
Alors, est-ce qu'on peut vous demander quelles sont... Alors là, on vient de voir à quel point vos inspirations sont multiples et variées, mais alors quels sont les auteurs et peut-être les dessinateurs, on a parlé de Norman Rockwell, mais quels sont les auteurs, les illustrateurs qui vous inspirent ou qui font partie de, je dirais pas de vos idoles, mais des personnes que vous considérez comme des maîtres à dessiner ou à écrire ?
Donc, maître à dessiner, on m'a déjà fait la réflexion, y compris aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. On m'a dit, quand j'ai vu ton affiche, j'ai pensé à Jérôme Bosch. Et là, j'ai dit oui, merci de me le dire, effectivement, Jérôme Bosch est un peintre que j'admire beaucoup. J'aime énormément son travail, ses tableaux sont foisonnants,
un peintre du détail.
Et dans ces tableaux, il y a des centaines d'histoires dans l'histoire, parce qu'il y a tellement de petites créatures, de petits êtres partout, de diablotins, de choses absolument extraordinaires, ou même d'objets, de plantes merveilleuses. Et voilà, et donc qui incontestablement, voilà, ça c'est une des grandes influences.
Est-ce que vous vous sentez détentrice de la même folie? Parce qu'on a souvent dit que Bosch était un peu fou, quoi.
Oui. Il y avait un... Je pense que oui, j'ai un petit grain de folie quand même. Voilà, pour vous. Voilà.
Et est-ce que vous vivez dans le même genre d'enfer que lui? Parce que dans sa tête, ça avait l'air quand même assez particulier.
Non, je pense qu'à l'image de l'affiche, c'est peut-être
plus lumineuse.
Voilà, plus lumineuse, oui, je pense. Il y a plus de lumière.
Donc Rockwell, El Bosco, Bosch.
Voilà.
Qui d'autre?
J'aime énormément aussi, même si ça se voit peut-être moins. Voilà, des illustrateurs anglais ou irlandais de la fin du 19e siècle, début 20e. Henry Clarke, voilà. Voilà. Ensuite, bon, le français aussi, Dulac, voilà. Plutôt dans les mondes nordiques, John Bauer.
Et en auteur.
Voilà, en auteur. Donc voilà, j'essaye de. J'aime aussi beaucoup. Donc ça, on le retrouve peut-être un peu plus dans le cabaret où il y a un hommage aussi. Bon, il y a des peintres russes, des illustrateurs russes comme Bilibine, voilà, qui illustrait voilà les livres de contes russes avec des choses très colorées, des choses vraiment très beaucoup de soucis du détail là-bas aussi chez les Russes aussi. En auteur, donc moi je suis assez friande de contes et légendes. On parlait des contes et légendes amérindiens tout à l'heure, ça reste quand même ce que je préfère, les contes et légendes du monde entier, hein, pas uniquement voilà, les contes et légendes, toute cette oralité là, le fantastique aussi. Bon, je vais encore parler du fantastique anglais, mais voilà.
C'est pas grave, on le dira à personne.
Voilà, Mary Shelley, Oscar Wilde, voilà, Bram Stoker, beaucoup de.
Le fantastique victorien.
Oui, fantastique victorien, mais aussi des auteurs plus récents et peut-être un peu moins connus. Je suis en train de chercher le nom, ça va pas du tout.
C'est pas grave,
tout.
Ça va revenir plus
voilà,
tard.
Voilà, ça va revenir plus tard.
Mais les histoires qui vous intéressent, c'est des histoires où le fantastique entre dans notre univers.
Voilà. Oui, tout à fait. Ça reste quand même. Et après, bien sûr, auteur francophone, je pense, assez connu, surtout ici aux Imaginales, qui a quand même beaucoup influencé mon travail et mon écriture, bah, Pierre Dubois. Voilà. Voilà, avec ses livres, avec sa féerie, et voilà, ça, des auteurs qui...
Alors du coup, pas de légendaire arthurien sur l'affiche, mais...
Pas de légendaire arthurien sur l'affiche, non.
Mais une inspiration qui vous touche.
Tout à fait, ouais. Une inspiration qui me touche, oui, tout à fait. Voilà. Donc j'ai retrouvé le nom de l'anglaise, enfin le nom du livre, il va falloir que je retrouve son nom, mais ça s'appelle Lolly Willows, et c'est un très très beau livre, ça se passe en Angleterre, début du XXe siècle, et voilà, on est vraiment dans le fantastique, et c'est l'auteur, ça y est j'ai retrouvé, elle s'appelle Laura Willows. c'était tellement simple que je pouvais que l'oublier.
Bien. Est-ce que dans vos projets, on peut envisager une suite au cabaret, par exemple? Est-ce que c'est des choses que vous réfléchissez de cette façon-là ou pas trop?
Pour l'instant, il n'y en est pas encore question. Je travaille sur de nouveaux projets un peu différents du cabaret. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de choses dans ce sens-là. C'est vrai que le cabaret a été quand même conçu comme... un one-shot à la base, donc c'est toujours difficile, je trouve,
de revenir dans
le même univers, même s'il y a des demandes, hein, bien sûr, mais de se regreffer, c'est difficile, il faut faire ça, il faut trouver un moyen de le faire, intelligemment, et de manière à surprendre, en fait, surprendre à nouveau le lecteur, tout en gardant une certaine fidélité. Par rapport au... Voilà.
Je me demandais, c'est une question que j'aime bien poser aux illustrateurs, parce que quand on est auteur, on dit pour Valérie ou pour Clémentine et on signe, même si les auteurs font de plus en plus d'efforts pour que ce soit original. Ouais. Mais pour vous quand vous dédicacez, illustrez, dessinez, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dessiner ou est-ce qu'il y a des choses que vous préférez dessiner? Est-ce qu'il y a sans que les choses se ressemblent forcément de l'une à l'autre. Est-ce qu'il y a des choses redondantes ou est-ce que c'est, pour compléter ma question, est-ce que c'est aussi un moyen de revenir dans l'univers en y faisant quelque chose de différent, de faire de la dédicace, hein?
Oui, franchement, moi, il n'y a rien que je trouve redondant personnellement dans la dédicace, parce qu'à chaque fois, le dessin est légèrement différent.
Alors, vous travaillez sur la demande de la personne qui vient de faire la dédicace
Vous lisez dans mes pensées, en fait, c'est ça.
Et oui, chacun son don.
En fait, la seule chose, moi, que je trouve un peu plus dérangeante en dédicace, c'est quand quelqu'un arrive en ouvrant le livre en disant « alors, je veux ça ». Là, c'est plus difficile parce que ça fait plus... Bon, après, il y a manière et manière de le dire, mais souvent, quand c'est comme ça, c'est plutôt des... J'exige, on va dire. Et c'est difficile parce que faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des robots et que ça, justement ça, on a mis 3 jours à le faire, donc ça sera impossible d'avoir ça sur la page. C'est difficile parfois. Ouais. Voilà.
Et je pense à ça parce que c'est l'idée qui me vient souvent quand je parle des dédicaces avec les illustrateurs, c'est... Quelqu'un comme Boulet, par exemple, qui est un illustrateur connu, il dit qu'il déteste dessiner des chevaux ou des poneys. Et bien évidemment, à partir du moment où il a dit ça, les gens qui viennent en dédicace lui demandent automatiquement des poneys et des chevaux. Donc peut-être il vaut mieux pas dire ce que vous n'aimez pas dessiner.
Non,
mais il n'y a pas de choses.
Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de choses.
De limitation, parce que non. Lui dit c'est super difficile à dessiner, ouais. Les proportions, tout ça.
Non, généralement les gens me laissent libre de dessiner, donc voilà, généralement je fais des choses, même s'il y a des variantes que j'aime bien et puis qui ne prennent pas forcément non plus ou 3 jours ou 3 heures, parce que il en faut un petit peu pour tout le monde. C'est normal.
Puisqu'on parle illustrateur, puisque je parle de Boulet et que vous êtes illustratrice, mais pas avec un long passé. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Est-ce que vous faites partie des 100 illustratrices féminines qui se sont réunies en collectif et qui essayent de promouvoir les femmes dans le monde de l'illustration? Est-ce que vous avez senti une difficulté? Est-ce que c'est un univers qui vous semble compliqué pour les femmes ou pas spécialement? Vous n'avez pas encore eu l'occasion d'être confrontée à ça? Est-ce que le fait d'être chez un éditeur fantasy qui ne fait pas spécialement de la BD, mais plutôt bien des Ouroboros et des livres éventuellement du roman graphique. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette difficulté qui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, a été quand même importante au dernier festival de la BD d'Angoulême?
Tout à fait. Alors, pour commencer, je pense que ce qui s'est passé à Angoulême et finalement n'est rien d'autre que le reflet malheureusement de notre société. Tout le monde a dit « Oh là là, c'est incroyable le machisme qu'il y a dans la BD, etc. » Mais oui, mais c'est incroyable le machisme qu'il y a tous les jours, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pas forcément spécifique à la BD. On le retrouve avec une actualité plus récente dans la politique, par exemple, je pense. Donc bon, c'est pas propre à des milieux, c'est juste propre à notre société.
Donc, hélas.
Ça, hélas, voilà. Donc ça, je pense que c'est déjà une prise de conscience qu'il faut avoir. Ensuite, effectivement, dans le cadre d'une, dans la fantasy, avec un illustrateur qui fait principalement du roman, de l'édition de romans, de nouvelles, etc., et un peu moins d'illustration, on le ressent moins dans ce milieu. Par contre, c'est vrai, je fais des salons de BD, j'en fais régulièrement. Clairement, oui, c'est un milieu où c'est difficile, où on a souvent des remarques très machistes. Voilà, il faut savoir, il faut être armé, il faut, bon, voilà, faut avoir du répondant.
Faut pas lâcher.
Faut pas lâcher. voilà, quand on commence, quand on débute, le genre de réflexion qu'on peut avoir, c'est ah oui, mais t'es scénariste. Non, je suis dessinatrice.
Parce que c'est déjà... Il y a cette impossibilité.
Déjà, des petites réflexions comme ça, c'est des petites choses comme ça, c'est difficile. Ou alors, ça c'est vrai, quoi, qu'on est sur le stand avec un copain ou son conjoint, etc. C'est lui qui dessine, c'est lui qui a fait la BD et vous êtes là pour tenir la caisse, quoi, en gros, ou tenir la chandelle. Mais
pourtant, il y a marqué Hélène Larmé. c'est clair comme
voilà.
Prénom.
Ouais.
C'est assez genré.
Oui, voilà. Donc ça, c'est des petites choses clairement qui, effectivement, reviennent régulièrement. Voilà, je pense que le milieu de la fantasy est à mon sens, pour mon expérience personnelle en tout cas, est un peu plus épargné. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il est plus diversifié, tout simplement. Donc, peut-être que les gens se sont plus habitués à voir pas mal d'auteurs féminines dans la fantasy et moins dans la BD, malheureusement. Peut-être pour ça. Après, il existe aussi, malgré tout, ça m'est aussi arrivé d'avoir des réflexions un peu limites de la part d'auteurs, d'écrivains. Donc, je ne le fais vraiment pas. Ça dépend vraiment
C'est bien partagé.
C'est bien partagé, quoi. C'est quand même bien partagé. C'est vrai que ça, c'est un combat quand même assez important, je pense, ce qui s'est passé cette année. Il faut que les choses évoluent, il faut que les choses changent. Je pense que...
Ça fait partie des évolutions que vous auriez pu traiter dans l'affiche aussi,
oui,
ou est-ce que Ruby est à la fois l'embodiment, j'allais dire en anglais, la personnification de l'évolution par rapport aux différences qu'on peut faire entre les gens de différentes couleurs et l'évolution qu'on peut faire entre les hommes et les femmes?
Oui, tout à fait. C'est pas pour rien aussi qu'il y a dans l'affiche, on voit deux petits personnages, donc ce sont les deux loutres avec qui représentent les sorcières de Salem. Donc il y a le petit pèlerin, le petit homme qui est en bas et qui montre du doigt la loutre qui s'est envolée, qui regarde derrière, l'air de dire mais c'est bon, je suis libre maintenant, quoi. Je t'appartiens plus, quoi. Et il y a un petit peu de ça. C'est tout le problème de la représentativité. Tant qu'il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas d'exemple. Et ça, il faut qu'il y ait une représentativité pour que des jeunes auteurs puissent se dire, là, c'est possible, je vois...
Se projeter,
tout à fait. Mais c'est comme s'il y avait un plafond de verre, on va dire, qu'on ne peut pas dépasser, parce que les femmes dans l'illustration, dans la BD, pas partout... Pas dans tous les festivals. Et ici, c'en est une preuve, je dirais, plus qu'évidente et extrêmement, rassurante. Et voilà, ça, c'est preuve d'une très grande ouverture. Ben, les femmes, on ne les accompagne jamais jusqu'au bout de la course, en fait. C'est, oui, on veut bien publier votre livre, mais par contre, non, ça s'arrête. C'est comme si au milieu de course, on disait, ben non, vous êtes une femme, donc vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là. Ce qu'on va épauler, ce qu'on va coacher, c'est les hommes, parce qu'ils sont des hommes. Ce qu'on va mettre en avant, ceux à qui on va donner des prix, etc., parce que c'est comme ça. Et ça, c'est pas... C'est une question de représentativité, vraiment. Je pense que c'est... Bon, avec tout ce qui... Voilà, je parle aussi de... Bon, je fais une référence avec le sport... qui n'est pas fortuite. Je vois le nombre de prix, voilà, des prix féminins, d'expositions féminines pour la bande dessinée avec des genres qui n'ont absolument rien à voir en commun. Si ce n'est juste que ce sont des femmes qui ont fait ces illustrations, qui ont fait ces planches de BD. Et voilà, pour les hommes, on ne parle pas de genre masculin. Ça va être du western, ça va être en BD, ça va être de la science-fiction, ça va être... du polar, je veux dire, c'est un petit peu comme
le polar masculin de l'année va
voilà,
à...
le polar masculin de l'année va à c'est un petit peu comme si et il n'y a aucune c'est sans aucune agressivité ni pas du tout négatif si vous voulez que je dis ça, mais c'est comme finalement je reviens au sport, c'est comme s'il y avait les JO et puis les paralympiques, en fait. Pour certains prix, le fait qu'on soit complètement dissocié, c'est un peu ça. Je ne dis pas ça du tout d'une manière négative, etc. C'est comme si finalement on avait quelque chose de différent, de quelque chose d'handicapant, en fait, qui ne permettait pas, pour certains, quand on organise uniquement des prix féminins, uniquement des expositions féminines, qui ne nous permettait pas simplement d'être
mélangés
et à égalité. Donc je fais un petit peu ce rapprochement-là parce que parfois, bien sûr, surtout quand c'est très marqué ou très extrême, ça peut être ressenti comme ça. Mais bien sûr, il n'y a aucune dépréciation du handisport, au contraire, quoi. Mais c'est juste pour marquer cette différence. Qui dit, bah, voilà, il y a d'ailleurs un débat là aussi sur le handisport qui est de mélanger, qui revient régulièrement, qui est de mélanger valide et non valide, justement parce qu'il y a des performances qui sont tout à fait
comparables,
tout à fait. Donc bon, c'est un débat qui revient là aussi, voilà.
Est-ce qu'on peut dire que ça a été une difficulté de produire et à la fois l'affiche et à la fois tous les tableaux qui sont dans l'exposition dont le vernissage a lieu tout à l'heure, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Je vous invite à nous rejoindre
à 19h à la galerie du Bailly, voilà.
Est-ce qu'il y a une difficulté de production, d'homogénéité ? Est-ce que quand on prévoit ce genre d'expo, on sort tous ces tableaux et on se dit « Youpi, ça y est, enfin j'ai une expo » Ou est-ce qu'on produit spécialement pour l'exposition en restant dans une certaine lancée, dans une certaine thématique ? Voilà, comment est-ce que vous avez produit les tableaux qui sont dans cette expo ?
Alors, c'est vrai que cette année, j'ai eu la chance, à la fois l'honneur et la chance d'être l'affichiste des Imaginales, mais aussi de réaliser la couverture de l'anthologie des Imaginales. Donc, c'est vrai que ça a déjà...
Un beau combo.
Voilà. Donc, ça a permis déjà de, je dirais, de faire le lien et d'avoir donc une partie de l'expo qui est consacrée aux Imaginales, que ce soit l'affiche, que ce soit la couverture de l'anthologie avec tous les croquis préparatoires, avec les crayonnés, avec les originaux couleurs. Et ensuite, j'ai aussi exposé, parce que ben, ça s'est enchaîné comme ça, mais j'ai eu plusieurs commandes, on va dire, avant les Imaginales de cette année. Et donc une autre affiche pour le Festival de l'Imaginaire des Pays d'Aix, Marseille, agglomération, donc Festival de l'Ambesque, qui est en octobre. Donc, il y a l'original de cette affiche. Quelques couvertures aussi qui m'ont été commandées dans l'année. Et notamment une petite maison d'édition, les éditions Psyché, avec qui donc, je travaille sur Rennes, avec qui j'ai travaillé un petit peu cette année. Donc voilà, tout ce travail est dans une partie spécifique de l'exposition, parce qu'il représente aussi mon travail de l'année. Donc je pense que c'est intéressant de voir par rapport aux années précédentes l'évolution de techniques aussi, des différentes techniques utilisées. Cette année, j'ai beaucoup travaillé avec de l'aquarelle et de l'encre. Donc je pense que c'était intéressant de mettre ça ensemble. Et puis pour le reste de l'exposition, qui est la plus grosse partie en fait de l'exposition, là c'était vraiment en lien avec les Imaginales de l'année dernière, vu que l'année dernière j'ai eu la joie de recevoir le prix des Imaginales de l'illustration pour L'étrange cabaret. Donc je trouvais intéressant de mettre L'étrange cabaret justement en avant, ce livre qui avait reçu le prix l'année dernière, avec notamment des originaux, beaucoup de crayonnés là aussi, et voir un petit peu l'effet sortir du livre, avec un petit côté ludique aussi dans l'exposition, avec des vitrines dans lesquelles on peut voir des tickets d'entrée du cabaret, des invitations, des tickets de vestiaire.
Oui, l'exposition prend la 3D, quoi.
Voilà,
prend du relief.
Tous les petits objets qu'on pouvait retrouver dans le livre sont sortis du livre, ils sont là en vrai, dans les vitrines. Ça, c'était pour le côté assez ludique et le clin d'œil, et ça donne... voilà.
Est-ce que vous vous sentez capable de produire justement une sorte de cabinet de curiosité qui serait complètement centré autour de L'étrange cabaret, avec plein d'objets, avec de faire une expo vivante presque? Oui. Est-ce que vous pourriez faire vivre L'étrange cabaret avec des acteurs ou avec dans ce genre de projet
ça pourrait être étonnant, je pense, surprenant peut-être. Ça avait été
avec du cosplay.
Ouais. Alors il y a effectivement dans l'expo, on peut voir des photographies d'une cosplayeuse qui s'était costumée qui s'était costumée lors du Salon du Fantastique à Paris cette année. Donc il a repris la fée qui est sur la couverture de L'étrange cabaret, donc il y a un des personnages principaux et importants du livre. Elle avait refait le cosplay entier, donc voilà, elle avait fait sensation lors du Salon du Fantastique. J'imagine. Et donc on peut voir, elle n'est pas là malheureusement pour les Imaginales dans son cosplay, mais on peut voir des photos de cette intervention-là. Et puis j'avais vu aussi lors d'un petit festival à Villers-sur-Mer, donc sur la côte normande, du côté de Deauville, etc. C'était assez sympa. J'avais eu deux actrices professionnelles qui avaient rejoué une partie, un chapitre en fait du cabaret, costumé, donc c'était pas vraiment les cosplays, mais c'était dans le style du cabaret.
Intéressant.
Et c'était assez intéressant, voilà, c'était du théâtre vivant, vraiment, c'était... Elles ont rejoué un dialogue en fait, une scène de dialogue assez forte du cabaret à la fin du livre. Et c'était donc oui, il faut avec beaucoup de préparation, beaucoup de bénévoles, beaucoup de moyens, ça pourrait
se faire. Et est-ce que on peut vous demander pour finir avant éventuellement de proposer aux gens de vous poser des questions, est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes plutôt fée ou plutôt automate au final en fonction du thème de cette année de l'anthologie?
Je pense que je reste plutôt fée, pour rester dans les racines mythologiques universelles, en fait.
Voilà. Et quel genre de fée? Une fée maléfique ou une fée positive?
Oh, une fée...
Où est-ce que c'est indissociable, finalement, chez les fées? Est-ce que vos fées sont ambivalentes?
Si on part aux racines, en fait, si on repart aux racines des fées, les fées sont ambivalentes. Et les fées, en plus, on fait des féministes avant l'heure. Et là, je conseille la lecture de l'excellent livre de Claudine Glow, qui a écrit la préface du cabaret. Voilà, les fées ont une histoire et qui montre à quel point... dans le Moyen-Âge, déjà à l'époque moyenâgeuse, les fées avaient une liberté par rapport aux dames qui étaient vraiment aux femmes du Moyen-Âge. Elles incarnaient cette liberté, elles incarnaient voilà, des droits, etc. Et donc cette fée, ces fées, en fait, je trouve que ça s'est fait émanciper, en fait, on va dire, avant l'heure. C'est pour ça que je pense que la fée ne sera jamais anachronique, finalement, vu que la fée a cette liberté-là. Elle est toujours en avance.
Elle a toujours plus de liberté que la femme.
Elle a toujours plus de liberté que la femme. Elle incarne cette liberté, elle incarne tout ça. Et donc, voilà, je pense que finalement, cette fée-là me correspond bien.
Plutôt qu'une journée du droit des femmes, on devrait faire une journée des fées.
Oui, voilà.
avec tous les droits.
Avec tous les droits.
Est-ce que quelqu'un a une question? Non, je continue à... Oui.
J'ai apprécié aussi beaucoup votre affiche, aussi autour des verres. Il y a un peu du merchandising, c'est agréable, c'est du verre de l'exposition.
Le gobelet.
Ah oui. Oui, alors, je suis désolée, je ne les ai pas encore vus. D'accord. Oui.
Et
voilà, alors effectivement, chaque année, il faut que le château soit représenté sur l'affiche. Et plutôt que de faire les ruines du château de manière assez traditionnelle, j'ai réfléchi à la manière d'intégrer le château et peut-être même une vue du château peu habituelle, justement, sur les affiches. De manière différente. Et comme idéalement, il y avait aussi donc le cinéma, le théâtre, etc. Je me suis dit ça pourrait être très 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 intéressant finalement de représenter un décor en carton-pâte. Dont ferait partie le château, mais dont font partie aussi, on peut le voir en arrière-plan, ce décor du Grand Canyon américain. Donc on est dans un décor en carton-pâte, on est dans un décor de cinéma, de théâtre, et je m'étais dit, le château, il n'a jamais été représenté comme un décor de cinéma, finalement. Donc c'était une manière différente d'introduire les monuments, en fait, spinaliens. Et voilà, comme la tour chinoise, au lieu de faire une tour chinoise, je dirais à taille réelle, bien sûr, là, elle est complètement rétrécie, ça devient un rucher miniature sur le dos de l'ours. C'était vraiment une manière d'intégrer, finalement, quand on a un cahier des charges qui est assez important, avec idéalement beaucoup d'éléments à placer, ça nous pousse à réfléchir vraiment réfléchir quelle serait la façon la plus intéressante et peut-être la plus intelligente dans la composition pour intégrer, même novatrice, hein, pour intégrer ces éléments. Voilà, ces éléments. Bon, pareil, la référence, les deux références à la maison romaine d'Épinal, on voit le grand lion dans les nuages, mais derrière le fort, on aperçoit aussi des roses et la roseraie de la maison romaine qui est, voilà, elle aussi, je crois, assez appréciée par les Spinaliens.
Donc, c'est un exercice artistique libre mais imposé, c'est ça?
Oui. Tout à fait.
tout y est.
Voilà, tout à fait. Tout à
bon.
Fait.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions à Hélène, on va mettre fin à cette rencontre. Merci à vous. Merci Hélène de nous avoir si bien parlé de votre travail et de vous.
Merci beaucoup. Merci.